Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Pour cet épisode hors série numéro 2, je suis ravie d'accueillir à mon micro Océane, plus connue sous le pseudo Aenantio. Océane est maman de deux petites filles, Ali Rose et Mélina. Originaire d'Épinal, elle vit désormais à Nantes et travaille au service environnement de son département. Femme active, ses responsabilités professionnelles et son rythme de vie soutenu ne l'ont pas empêchée d'être sensible à l'éducation qu'elle souhaitait offrir à ses deux filles. Dans cet épisode, nous parlerons de sa vision de la parentalité, ses déclics et ses choix. Comment concilier sa vie professionnelle et sa maternité ? C'est tout de suite dans le nid. Océane, toi, t'es maman depuis maintenant 4 ans. Comment t'es venue l'envie d'être mère ?
Ça s'est pas posé dans ces termes-là parce que ça a toujours été présent. Je suis l'aînée de 5 enfants, donc je pense que ça doit jouer forcément. Le côté responsabilité faisait pas peur puisque je connaissais bien. Et puis voilà, je pense que c'est aussi chacun naturellement... Voilà, moi j'ai toujours eu cette envie-là, je pense que j'ai toujours eu l'instinct maternel, je sais que ça, des fois on dit voilà, ça n'existe pas forcément, mais chez certaines personnes ça existe, c'était le cas, donc voilà.
C'était une évidence en fait pour toi depuis toujours. Ouais. Et comment est-ce que tu as vécu tes différentes grossesses ? Est-ce qu'il y a eu, ça s'est passé de façon différente, aussi bien physiquement que psychologiquement pour tes deux filles ?
Oui, ça a été différent, mais les deux grossesses ont été difficiles. Elles se sont ressemblées par rapport à ça, parce que, rien de grave, mais extrêmement malade. Voilà, très très malade, donc ça c'est quand même pas si facile que ça en fait. Les gens qui ont juste des nausées, ils peuvent pas forcément comprendre quand vraiment on est malade et que c'est sans arrêt, c'est dur. Et puis après il y a eu quand même un petit peu des petites inquiétudes. J'étais quand même assez anxieuse pendant les grossesses, alors que je le suis pas forcément hors grossesse, mais j'avais vraiment toujours peur qu'il y ait quelque chose à mes bébés. Et voilà, il y a eu du diabète pour la première, il y a eu un hématome placentaire pour la deuxième quand même. Donc voilà, j'ai eu des contractions très tôt, j'ai dû être arrêtée tôt. Bon, voilà, c'était... Ouais. Alors il n'y a rien eu de grave du tout, mais c'était un peu anxiogène comme grossesse quand même.
Est-ce que tu as aimé être enceinte ou pas particulièrement ?
Avec ce contexte-là, notamment avec les 4 premiers mois à vomir nuit et jour, c'était quand même vraiment... Parce que c'était vraiment nuit et jour, donc c'était pas évident. Après un peu plus, j'ai vraiment aimé, comme beaucoup de gens, il y a un cap quand bébé se met à bouger, j'ai vraiment aimé profiter de ces moments-là. Je me suis vraiment sentie en connexion avec bébé tout de suite, donc ça c'était vraiment la bonne partie. Après, physiquement j'étais pas bien, pas parce que... Alors, j'adorais par contre l'image de mon corps de femme enceinte, j'étais hyper à l'aise avec ça, même les kilos pris et tout, ça me dérangeait absolument pas, vraiment j'étais très à l'aise avec cette volupté-là, mais par contre juste physiquement j'étais pas bien. J'avais du diabète pour une, j'étais vraiment au repos assez strict, donc c'était pas
les conditions.
C'était pas des conditions idéales et physiquement c'était pas agréable.
Oui, complètement. Et du coup, toi, quelle était à ce moment-là ta vision de la parentalité, ou même avant d'être enceinte, comment est-ce que tu t'imaginais en tant que mère et dans ce que tu voulais pour tes enfants ?
Alors, je m'imaginais beaucoup plus stricte que ce que je suis aujourd'hui. J'ai été élevée avec des parents qui étaient plutôt à contre-courant de leur époque, qui étaient plutôt, comme on pourrait dire aujourd'hui, dans la parentalité positive, plutôt anti-VO, sauf qu'à l'époque, ils étaient vraiment très seuls par rapport à ça, ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient, mais c'était plutôt quand même dans leur état d'esprit, c'était plutôt une intuition pour eux que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc j'ai quand même déjà été élevée dans cette démarche-là, mais du coup, comme souvent, je pense, quand on devient un peu jeune adulte, on prend un peu le contre-pied de ses parents, et du coup, j'étais un peu d'avis sur certaines choses, de dire, faut pas laisser trop le choix aux enfants, ça peut aussi les angoisser. J'ai 15 ans d'écart avec ma petite sœur, et je voyais des choses que mes parents faisaient avec, et je disais, moi, je ferais pas comme ça, moi, je ferais pas comme ça. Bah oui, toi, t'as pas d'enfant, donc tu verras quand t'auras tes enfants. Ouais. C'est vrai, ça change tellement de choses, et voilà. Et donc, du coup, c'était plutôt peut-être un peu ma vision avant. Et voilà, et ça...
Ouais, c'était ta vision, et peut-être qu'en fait, avec ton... Enfin, j'imagine que quand on a ce regard sur une petite sœur, on voit ce que font nos parents qui ne sont pas aussi dans les normes de la société, t'as aussi un petit peu du mal, tu vois.
Oui, voilà. Tu as raison, j'ai jamais pensé à ça en fait, mais tu as totalement raison, parce qu'en plus, je pense, quand on est en fin d'adolescent, jeune ado, on est très orienté par ça. par les normes sociétales, on n'a pas encore le recul, on n'a pas la confiance en soi pour faire autrement. Et oui, je pense que tu as raison. Mais tu vois, j'y ai jamais pensé, mais je pense que tu as raison. Et du coup, je vivais peut-être un petit peu mal cette originalité qu'on avait dans notre famille, ces atypismes-là. Et voilà. Mais bon, ça s'arrange après.
Et oui. Et du coup, bah, à quel moment, justement, est-ce que tu as su que tu voulais pratiquer le maternage proximal avec tout le package, un peu allaitement,
cododo, cordage? Ouais, le package, ça a été pendant la grossesse, en fait. Je sais pas, il y a des choses qui, un peu inexplicables, qui se sont passées. Déjà, pour l'allaitement, ça allait un peu avec avant, je voulais pas allaiter, avant d'être enceinte. Genre, j'avais partie des gens qui trouvaient ça bizarre.
Ouais.
À ce point-là, quoi. Quand on sait où j'en suis aujourd'hui. Et par contre, c'est vrai, quand je suis tombée enceinte, et c'est devenu une évidence. Ça me paraissait... je pense que les instincts, à ce moment-là, ont pris vraiment le dessus. Et je me suis laissée, pour le coup, pour mes grossesses, même si c'est assez difficile, je me suis laissée entièrement envahir par la maternité. Et vraiment,
t'as accepté ce que t'es en train de se passer.
Complètement, dès le départ, j'ai eu un ventre tout de suite, même si j'ai pas pris de poids. Mais enfin, voilà, je me laissais complètement... j'étais entièrement enceinte et... Et du coup, je pense que les instincts, ont fait le job et l'allaitement, c'est apparu comme évident. Alors que quelques mois, voire quelques semaines après, je trouvais ça étrange. Enfin, c'est dingue. Hein.
C'est fou. Et du coup, le portage après, ça
portage, pareil. Le portage, Aliro, je ne l'ai pas porté si tôt que ça. Enfin, elle avait 3 semaines, mais par rapport à la deuxième. Mais c'est pareil, c'était ça me paraissait évident parce que même avant d'être en portage en écharpe, elle était tout le temps sur moi, Aliro. Enfin, il y a vraiment eu un truc. Je me suis mis en pilote automatique maman quand elle est née et c'était de cette façon-là, mais tout seul, quoi.
Tout s'est fait naturellement. Ouais, c'est vrai que tu vois, moi, quand je savais que je voulais porter, etc., mais quand même, il y a eu ce truc peut-être encore sociétal où en fait j'avais reçu une poussette et je me suis dit, bon, quand même, tu sais, le truc de quand même, il faut que j'essaye. Et en fait, j'ai détesté en fait quand il était tout petit. Le mettre dans cette poussette, il y avait du soleil, donc je baissais la capote de la poussette et puis je le voyais pas et puis à chaque tremblement il pleurait et tout, je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire et je me suis dit ok, c'est pas moi. Et tu vois, des fois on se met dans ces trucs là je sais pas si t'as eu ce...
ouais je pense que moi j'ai eu ça un petit peu, j'ai eu ça par rapport au coucher d'Aliro, j'ai pas eu ça forcément par rapport au portage. Après, elle a été en poussette assez rapidement, mais parce qu'elle est née au mois de mai et c'était la canicule à un moment donné en été, notamment quand je me souviens quand on a été la présenter à ma famille dans les Vosges, il faisait vraiment 40 degrés et c'était ingérable le portage, c'était impossible. Du coup là, elle a été un peu en poussette, mais bon, elle aimait bien, ça allait. Puis ça a pas empêché de la porter tard après, de recommencer dès qu'il a fait meilleur, etc. Et puis même pendant l'été, je me souviens, je la portais beaucoup dès qu'elle avait des pleurs, enfin voilà. Et en fait, par contre, pour le coucher, pour Ali Rose, encore, on était encore pas complètement libre par rapport à ça et on l'a laissé un petit peu pleurer 5 minutes, 10 minutes peut-être maximum parfois, quelque chose qu'on ne referait jamais et que voilà, et qui nous paraît improbable aujourd'hui, moi qui me paraît vraiment, j'ai l'impression que j'étais pas la même personne, quoi.
Ouais, parce que tu te sentais sous l'emprise d'une certaine
mes parents m'avaient quand même, mon père m'avait donné ce conseil là aussi, je crois, mais parce qu'il pensait bien faire en disant des fois faut qu'il décharge et 10 minutes, 10 minutes maximum, c'est pas forcément grave. Je pense que c'est pas des règles comme ça si établies. Enfin, tu le sens, ton gamin, quand il panique. Et moi, clairement, je m'en souviens très bien. Les Roses, il y a parfois, elles paniquaient. Parfois, tu peux avoir 10 minutes de chouinement ou 5 minutes où vraiment, effectivement, bébé fatigue, voilà. Mais quand il panique, t'appliques pas. Enfin,
voilà, oui. J'ai eu ma mère aussi, tu vois, qui m'avait dit « Oh, mais peut-être qu'il a besoin de, pareil, ce truc, se décharger. » Et dans ma tête, je me disais « Mais c'est pas cohérent parce que s'il a besoin de se décharger de pleurs comme ça, pourquoi est-ce qu'il le fait pas quand il est aussi dans mes bras ?»
Mais c'est ça.
En fait, c'est que voilà, il y a un truc qui colle pas, mais c'est vrai que voilà, petit à petit, on arrive à s'affirmer, à savoir.
C'est finalement... exactement ça, on arrive à s'affirmer. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et je pense que pour un premier, effectivement, si le mode automatique maman était enclenché, en revanche, je pense que la confiance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on sent, ça, c'est pas venu tout de suite, quoi. Ça a mis un peu de temps à venir, ça.
C'est vrai. Et du coup, est-ce que toi, tu peux, tu nous en as déjà parlé, mais de l'éducation que tu as reçue étant enfant et ce que tu avais envie aussi de transmettre, tu vois, de ton enfance, il y a des trucs que tu n'as pas eu envie de reproduire, mais qu'est-ce que tu as retenu qu'aujourd'hui, tu es contente de transmettre à tes filles ?
Alors, il y a vraiment une chose, je pense que mes parents ont vraiment réussi et ce n'est pas toujours le cas, c'est la solidarité, la fraternité et l'amour qu'on a entre les frères et sœurs. Et l'entraide et ça, c'est quand même pas la majorité des cas. Je pense la plupart des frères et sœurs s'aiment, c'est sûr. Mais ce côté équipe contre le reste du monde, et ça, c'est une force qu'on a.
Malgré les différences d'âge.
Les différences d'âge. Et ça, je leur en serai toujours reconnaissant. Je pense qu'ils nous ont vraiment jamais monté les uns contre les autres. Alors, je pense qu'aucun parent ne fait ça sciemment, mais parfois, c'est quand même le résultat de certaines réflexions. De, voilà. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'était une grande force. Mais il n'y a pas eu que ça. Ça, c'était un point. Y a un deuxième point vraiment pour moi qui était important. Et ça, ça l'a toujours été par contre. On n'a jamais parlé de bêtises à la maison. D'ailleurs, mes parents me disent toujours, ils ont toujours une anecdote. Quand j'étais petite et que j'entendais des gens dire il y a une bêtise et tout ça, je dis toujours, bah, c'est pas une bêtise, c'est juste une petite maladresse. Et voilà, et moi j'ai été élevée comme ça, et du coup ça change beaucoup de choses parce que du coup, quand on casse quelque chose, on ment pas, c'est qui l'a cassé, bah c'est moi, bah ok, bah on répare, ouais, et on puis répare. Voilà, enfin c'est pas grave, c'est pas un big deal, du coup on n'est pas stressé à être chez soi, enfin c'est, et ça c'était quand même, c'était vraiment, je trouve que c'était vraiment très bien. Ouais. C'est pareil pour les vêtements, je me souviens à l'école, mes copines, ah, ma mère va me tuer, et ça me paraissait, mais improbable d'avoir des vêtements et de rien pouvoir faire dedans, enfin c'était vraiment, c'était fou, enfin. Et donc, voilà,
tu l'as gardé
ça,
en toi
ouais, vraiment. Ouais,
pour tes filles. Ouais. Bon, aujourd'hui, je crois que savoir que tu allaites toujours oui, Mélina, oui. Donc il y a 20 mois.
C'est ça.
Est-ce que c'était une évidence pour toi d'avoir un allaitement non écourté
Ah bah oui, c'était déjà mon projet pour ma première.
Ouais.
C'était déjà mon projet. Ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais... Enfin, ça n'a pas fonctionné. On sait pourquoi, hein, c'est pas ça, a pas fonctionné, j'ai pas de lait ou quoi. C'est non, il y avait un problème physique de frein qu'on n'a pas, voilà, qu'on n'a pas détecté, on n'a pas su. Mais c'était vraiment, ouais, c'était vraiment un projet. Alors après, là, en avançant, je sais pas si, parce que l'allaitement non écourté, c'est entre 2 ans et demi et 7 ans. Mmh. Si ma Mélina, son allaitement non écourté, c'est jusqu'à 7 ans, je suis pas sûre de la suivre quand même.
Ouais.
Mais en revanche, voilà, avant 2 ans, c'est sûr que non. Et puis après, on verra petit à petit. Je pense qu'après, de toute façon, on parle beaucoup, vraiment, on est très arrêté, je pense, sur l'allaitement non écourté avec des petits bébés. Et puis, en fait, quand on arrive sur l'allaitement d'un bambin, les choses, elles changent un peu. On sent son enfant qui en a moins besoin aussi. Et puis ça revêt plus, je trouve, ce côté impératif que ça a quand ils sont bébés. Je sais pas si...
Si, je vois complètement. Moi, je sais que, tu vois, les 6 premiers mois de sa vie, je travaillais de la maison et c'était impensable pour moi, tu vois, de partir, même de partir et de revenir lui donner une tétée. Je me disais, mais non, parce que t'as tellement dans cet âge-là, et je trouve tout petit, des signes qu'il n'y a que
tout
toi qui
fait,
vois.
Enfin,
je veux dire, et donc t'es dans une espèce de connexion. Et puis, à partir aussi du moment où ta lactation passe en autocrine, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à un moment donné, on n'a plus ce sentiment d'avoir la poitrine forcément gonflée et des pertes de lait, etc. Parce qu'en fait, la lactation se régule aussi et que le lait vient que quand le bébé tète. Voilà, donc quand tu passes déjà, en autocrine, déjà, tu changes. Bon, après, il y a certaines femmes qui le passent plutôt que d'autres. Mmh. Mais je sais que moi, ça m'a aidée. À partir du moment où ton enfant mange solide aussi, tu vois vraiment un changement.
Survie, hein, quand
complètement,
même déjà,
complètement.
Enfin,
c'est-à-dire que tu n'es pas plus la seule à le nourrir. Ouais. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, de se dire, t'arrives à partir, à revenir quand même pour lui donner une tétée, mais voilà, à espacer.
Ouais.
Je trouve que pour moi, quand on me dit, je discute avec des amis qui me disent, moi je sens que je vais allaiter 3 mois. Je leur dis dans la tête, mais moi les 3 mois, pour moi, ça a été les plus durs en fait.
Ouais.
Et je suis contente d'être allée au-delà parce que en fait, l'allaitement est devenu pas une libération, mais vraiment un plaisir, entre guillemets.
Ouais. Plus tard.
Ouais,
je suis d'accord, je suis complètement d'accord.
Ça te donne une liberté, que je trouve qui est hyper appréciable. Ouais. Quand ton enfant, il a 6 mois, 10 mois, 1 an, ou à n'importe quel moment, quand tu es avec lui, tu peux lui donner une tétée quand il tombe, quand il a besoin de s'endormir.
Ouais.
Je veux dire, c'est une liberté.
Ouais.
Alors qu'au début, voilà, comme tu dis, tu es quand même dans
c'est
une
très
grande
intense,
disponibilité.
Ouais, bah oui,
et
sûr.
Tu es son monde,
c'est
et
ça.
Encore pendant quelques temps.
Mais je pense que la nature est bien faite, et je pense que même quand on n'allait pas, on devrait avoir cette disponibilité pour son enfant, effectivement, parce qu'il y a le côté l'allaitement, ça te cloue à ton enfant, mais il en a absolument besoin. Et la nature est bien faite, si c'est comme c'est ça, c'est comme
donc
ça.
Donc rallonger les congés maternité.
Exactement, voilà, c'est
parce
exactement
que,
ça.
Il faut le dire,
6 mois minimum, minimum.
C'est un très,
clair.
Très gros problème dans notre société et ça permettrait à beaucoup de femmes qui souhaitent allaiter et qui souhaitent même être auprès de leur enfant de le faire. Et même
complètement, parce qu'en plus, et je pense que déjà ça augmenterait le taux d'allaitement à 6 mois, mais ça l'augmenterait après, parce que quand on reprend le travail à 6 mois, bébé est diversifié et c'est beaucoup plus facile, et du coup on peut poursuivre l'allaitement même en travaillant. Avant, c'est quand même plus difficile, c'est possible, mais c'est quand même plus difficile.
Ouais. Du coup, toi, t'as un poste à responsabilité, t'as un travail qui te prend beaucoup de ton temps. Comment est-ce que t'as géré justement cette reprise du travail et ton allaitement?
Alors du coup, donc pour Aliro, ça a été écourté très tôt à 2 mois, donc j'ai repris, je l'allaitais déjà plus. Et puis Mélina, j'ai repris justement, elle avait 6 mois. Donc du coup, ça change quand même pas mal la donne, elle a été diversifiée depuis 15 jours. On avait essayé de la diversifier à 4 mois et demi, ça ne l'intéressait pas du tout, donc on a un petit peu repoussé. Et puis en fait, elle s'est... Donc on a dit, bah, tant pis, ça, on verra, on fera en fonction d'elle. Et puis en fait, eh ben, un mois après, elle a commencé à s'intéresser à 5 mois et demi. Donc bah, c'est assez bien tombé parce que du coup, elle est rentrée en crèche, elle était diversifiée. Donc, parce qu'elle n'a jamais voulu de biberon, jamais. Elle n'a jamais voulu mon lait autrement qu'à la source. Donc voilà, donc moi je tirais mon lait parce qu'il fallait... bah, j'essayais, j'espérais quand même qu'elle en prenne à la crèche. Et puis il fallait absolument maintenir la lactation. Et donc je tirais 3 fois par jour. Je tire en milieu de matinée, le midi, en milieu d'après-midi. Donc ça, c'était au départ. Et puis en fait, comme elle ne voulait pas du tout prendre de lait au bout de 15 jours, j'ai été lui donner la tétée à midi, à la crèche. La crèche n'était pas loin, la crèche était à 10 minutes en voiture, donc c'était faisable. Donc je tirais une fois le matin, une fois l'après-midi, mais j'allais lui donner la tétée le midi. Et très vite, en fait, comme elle prenait une grosse tétée le midi, je tirais plus qu'une fois dans la journée,
ouais.
En plus de la tétée du midi. Et ça, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 mois. Et au bout de 2 mois, elle a commencé un petit peu à prendre du lait à la tasse à bec.
Mm-hmm.
Pas énorme, mais un petit peu suffisamment pour que j'aie plus forcément besoin d'y aller le midi. Et du coup, là, je retirais 2 fois.
Ouais. Et au travail, ils ont été compréhensifs, ils ont...
Tout à fait, ouais, ouais. Non, moi, j'ai eu de la chance. Alors, après, j'ai des bonnes conditions aussi, j'ai mon bureau perso, tout ça, donc c'est quand même plus facile. Après, ils ont entendu, mais je pense que j'ai absolument pas laissé le choix à une quelconque discussion. Je pense
que c'est un droit, il faut le rappeler quand même, c'est un droit.
C'est un droit, il faut le rappeler. Après, moi, je suis fonctionnaire, j'ai de la chance, je pense que voilà. Mais quand même, enfin, c'était absolument pas une question, j'ai pas demandé la permission d'allaiter. C'est voilà, c'est comme ça, j'allaite, j'ai une heure d'allaitement, comment on s'organise, voilà. Comment on s'organise au mieux pour que ça se passe bien.
Il faut le rappeler. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas forcément, à partir du moment où vous êtes salarié dans une entreprise, quand c'est une petite entreprise, bon, vous pouvez faire ça où vous vous sentez à l'aise pour le faire, mais à partir du moment où vous avez
plus de 100 femmes.
Voilà, à partir du moment où il y a plus de 100 femmes, il y a une pièce qui doit être
normalement, voilà.
Dédiée.
C'est ça. Voilà. Mais de toute façon, tout le monde a le droit à une heure d'allaitement jusqu'au 1 an de l'enfant.
Voilà, donc ça, c'est important de le rappeler.
Et donc, c'est une heure, s'il y en a qui se demandent, c'est une heure non rémunérée par principe, mais selon les conventions collectives, moi par exemple c'était rémunéré, et en fait c'est quand même assez souvent rémunéré selon les
conventions collectives. Il faut se renseigner,
voilà, c'est ça.
Mais c'est possible et ça permet de ne pas mettre en péril son allaitement, de continuer. Et tu vois, moi pareil, au début je tirais au bureau quand j'ai repris que Gaspard avait 6 mois, et puis petit à petit, en fait, comme toi, je rentrais juste le midi, et en fait maintenant je tire même plus.
En fait, c'est ça, je pense qu'il faut savoir, les femmes qui reprennent le travail, il faut tenir jusqu'à 1 an à peu près. Mmh. Après 1 an, on ne tire plus, il n'y a plus besoin. Et donc, c'est la libération. Donc, ce n'est pas tant de temps que ça à tenir. Si on a un projet d'allaitement long, un projet d'allaitement non écourté, et que le travail, c'est peut-être un frein, il faut se dire que c'est très momentané, quoi.
Ouais.
C'est 6 mois. Si on arrive, l'idéal, ce serait vraiment ça. Ça serait d'arriver à reprendre aux 6 mois de bébé quand la diversification... Mmh. Parce que les quantités de lait à tirer chutent. Hein. On passe de 1 litre entre 700 et 1 litre 2 à 500 millilitres. Donc, ce n'est plus du tout les mêmes quantités. Et ça ne dure que 6 mois. En général, tout le monde s'arrête à peu près de tirer vers 1 an.
Ouais.
Donc c'est pas longtemps, quoi.
Non, mais puis en plus, bon, c'est vrai que moi, quand on me demande, c'est pas du tout une partie de plaisir pour moi, le tirer allaitement. Oui, autant j'adore allaiter, autant tirer mon lait, c'est pas... Mais vraiment, ça permet, voilà, c'est sur un court laps de temps, de maintenir la lactation, de maintenir cet allaitement, et puis après, le corps aussi s'adapte, et plus l'enfant grandit, après...
C'est ça. Après, la lactation, elle est ultra installée, hein. Il y a vraiment plus de... Voilà.
Complètement. Et est-ce que tu t'es sentie accompagnée pendant ta grossesse, ton accouchement et ton séjour en maternité sur tous ces sujets-là, tu vois, autant l'allaitement que justement les besoins fondamentaux de ton enfant, au niveau de l'équipe médicale et de l'encadrement, comment tu t'es sentie ?
Alors moi, ça s'est assez mal passé pour Ali Rose. La sage-femme était très bien sur l'accompagnement pendant la grossesse. Pas des masses, mais bon, c'était correct. Par contre, ça s'est très très mal passé à maternité. Pourtant, une maternité, enfin une clinique réputée, très physio, etc. Et en fait, ça a été assez compliqué. Ils ont été d'extrêmement mauvais conseils en termes d'allaitement.
C'est à cause de ça que du coup
Oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, on n'a pas su qu'elle avait un problème de frein de langue et de frein de lèvres. Donc on l'a su trop tard. effectivement, on aurait pu être renseigné tout ça, mais j'estime quand même que c'est des choses très techniques, très physiologiques, médicales, qui sont pas censées être de notre ressort, quoi, je veux dire.
Oui, bien sûr. Voilà. Dans un moment donné où tu es pris en charge, t'attends.
Non, mais c'est ça. Et l'allaitement, vraiment, c'est pas compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, un frein de langue... C'est un frein de langue postérieur, donc effectivement, il faut s'y connaître en frein de langue. C'est pas le frein de langue au bout, le petit fil qu'on voit et que là, tout le monde peut voir et couper. C'était un frein de langue un peu plus postérieur. Quand même, quand tu le sais, c'est juste qu'ils sont juste pas formés.
C'est ça.
Voilà, ils le sauraient, ils seraient formés. Mais le problème, c'est qu'ils disent pas c'est ça le gros problème que je leur reproche, c'est pas de pas savoir. Tout le monde peut ne pas savoir, mais quand on sait pas, on dit qu'on sait pas. On dit pas, non, il y a pas de problème. Là, l'allaitement, ça marchait pas. J'étais complètement blessée au bout de 12 heures, à saigner. Ça a été terrible toute la semaine. Et au lieu de me dire on ne sait pas, il faut, je veux dire, il y a plein de sources. Il y a la Lecelli que j'aurais pu appeler. Mais comme moi, j'étais cette jeune maman, je n'avais pas encore assez confiance justement dans ma maternité, dans ma façon de faire. Je n'ai pas osé aller demander ailleurs puisque on me disait que c'était normal.
Que tout allait bien.
Donc, c'est que c'était normal, c'est que juste ça ne marchait pas.
Ben oui, c'est ça.
Il n'y a pas de raison, l'allaitement, ça marche. Enfin, il n'y a pas de raison du tout que ça ne marche pas. C'est qu'il y a un problème et qu'il faut le régler. Quoi.
C'est là où après, tu entends les « j'ai pas pu allaiter parce que… » voilà.
C'est ça. parce que bébé ne savait pas téter, parce que mes seins n'étaient pas bons. Non, ça n'a… Non.
En fait, 1% de femmes seulement, pour des raisons médicales, ne peuvent pas allaiter. Voilà. Donc voilà. Mais moi, la plupart, tu vois, j'étais très informée. Et même en étant très, très informée, en disant le lendemain matin, j'ai accouché un samedi à 2h du matin, le dimanche matin, je leur ai dit, écoutez, là, je vois qu'il y a un frein de langue, il faut le couper. Mais pareil, moi, je l'avais identifié, je le savais qu'il y avait un frein de langue. Et elle m'a dit, non. Et en fait, parce qu'elle ne savait pas le faire. Et mon allaitement a failli foirer. Je suis restée une semaine à la maternité. Il ne prenait pas de poids. Et puis, c'est un cercle vicieux. Et tu perds confiance aussi en toi.
Exactement.
En ta capacité.
Exactement, la même chose.
On est dans le même truc. Et à partir du moment où ma sage-femme a coupé le frein de langue, alors que ça ne devait pas du tout être son rôle, j'étais dans l'entrée en charge de la maternité, ça s'est déroulé correctement. Mais je veux dire, voilà, encore une fois, pour moi, je suis complètement d'accord, ce n'est pas aux mamans à détecter, à convaincre l'équipe médicale d'avoir une intervention.
Ça ne devrait pas être à nous de le faire. Alors, c'est bien d'être éclairé, etc. Mais tu ne peux pas être éclairé sur tous les sujets. Je veux dire, les gens, c'est leur boulot, c'est leur job. Je veux dire, moi, je ne demande pas à ces gens-là d'être éclairés sur les espaces naturels. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est chacun son taf, quoi. Et je suis désolée, pour l'allaitement dans les maternités, il devrait être au point. C'est obligatoire. Il devrait y avoir des consultantes IBCLC partout, dans toutes les maternités.
Complètement.
Ou les pédiatres être formés à ce niveau-là en allaitement.
C'est ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est très réservé. Enfin, moi, j'avais des consultations donc avec une conseillère en lactation qui est venue à l'hôpital et qui m'a confirmé le frein de langue. Mais je veux dire, c'est un coût énorme pour le couple. Nous, c'était 270 euros les 3 séances et on est en province. Et je veux dire, ce coût-là n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est pas normal du tout. Et voilà, il y a vraiment une prise en charge qui est à faire sur ce côté-là. Il y a un argument qui revient souvent quand on parle de maternage proximal, d'éducation respectueuse. C'est le fait de pouvoir être en permanence avec son enfant. Mm-hmm. Et est-ce que toi, tu penses qu'avoir une activité professionnelle hors de la maison, c'est un frein à tout ça?
Pas du tout. Alors, pas du tout, parce que déjà, je trouve que d'être parent au foyer, c'est beaucoup plus difficile que d'être travailler. Je l'ai toujours pensé et je le pense toujours. Je pense que, ce souffle quand même que tu as quand tu pars travailler, après ça dépend évidemment de ton travail, mais quand on aime son travail et que c'est enrichissant, ce souffle d'air que tu as, ça te permet d'avoir une disponibilité d'esprit, je trouve, pour tes enfants qui est autre. Donc déjà par rapport à ça, alors que quand tu es tout le temps avec tes enfants, les respirations sont pas évidentes. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt plus facile, parce qu'on a moins de temps avec ses enfants, d'être focus correctement avec eux. Après, effectivement, on peut avoir tendance à être plus pressé, mais je pense que tout s'anticipe en fait. Moi, j'ai jamais pressé les filles. On s'organise, il n'y a jamais eu de dépêche-toi, de machin,
Comment tu gères rare.
C'est juste que c'est pris bien à l'avance et puis on ne se prend pas trop la tête. Si un matin, le petit-déj, il n'est pas ceci, cela, on prend le petit-déj en voiture, on prend le petit-déj en vélo. Si je veux laisser mon haut de pyjama, tu laisseras ton haut de pyjama. J'ai envie de te dire, moi, c'est pas trop mon problème. C'est pas très grave, je vais pas mettre mon manteau, le mets pas, prends-le sous le bras, puis au bout de 2 minutes à 5 degrés, tu te rends vite compte toi par toi-même que tu vas le mettre. Et ça marche assez bien. Et puis d'anticiper et de prendre le temps qu'il faut. C'est vrai que je pense notamment aux déposes de la crèche avec Ali Rose qui prenait un petit peu de temps. On avait toujours 10 minutes, 15 minutes de rab, on savait qu'il lui fallait un petit peu de temps. On avait une crèche exceptionnelle qui acceptait ça. Qui acceptait, c'est pas accepté, ça paraît tellement normal, mais il fallait un temps de dépose comme ça, on le prenait, et puis c'était pas du tout un souci. Après, je pense que nous, clairement, le travail passait après, clairement, Ali Rose passait avant, et je trouve que ça devrait être comme ça, elle a pas demandé quoi que ce soit, elle, c'est à nous de s'adapter, bien sûr.
Pour elle.
Et puis après, il suffit d'être un peu plus efficace au boulot, tu prends pas de pause déj, il y a toujours vachement de moyens de s'arranger,
Du coup, de ce côté-là, au niveau de la garde de tes deux filles, comment tu t'es organisée? Comment tu as eu contact avec ces personnes?
Alors du coup, là, c'est intéressant à développer, parce que c'est vraiment en lien avec la parentalité respectueuse positive. Parce que par contre, il faut vraiment bien choisir son mode de garde. Je pense que tu confies quand même toute une partie d'éducation de ton enfant et de son quotidien et de son attachement à quelqu'un. Donc par contre, si on veut être dans cette démarche-là, je pense qu'il faut absolument sélectionner son mode de garde, et il faut absolument pas y aller si on le sent pas. Et ça c'est quelque chose de pas évident, je pense. Alors, des fois, il y en a qui n'ont pas le choix, je sais pas à quel point on peut avoir le choix ou pas. Mais nous, on est tombé sur une première crèche où Ali Rose a été pendant ses 3 ans jusqu'à l'école. Mélina a été jusqu'à ses 1 an. On a eu beaucoup de chance. C'était la crèche du CHU, une crèche du CHU de Nantes. Et notamment dans l'équipe, c'était une très grosse crèche. Ils étaient plus de 65 enfants, 70. Hein. Donc, c'est pareil. Hein. Moi, les excuses de « il y a beaucoup d'enfants », non. Non, on peut être une très bonne crèche avec beaucoup d'enfants. C'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Ils ne laissaient pas pleurer les enfants. Je me souviens très bien, la puéricultrice de l'équipe, elle nous a toujours dit, de toute façon, un enfant avant 3 ans, il n'est pas fait pour la collectivité. Et c'était une puéricultrice de crèche qui disait ça. C'est comme ça, au niveau de son stade de développement. Donc maintenant, on le sait, donc on va faire en sorte que, nous, on le sait tous, on va faire en sorte que ça se passe le mieux pour lui, parce que des fois, il n'y a pas le choix, parce qu'on va travailler tout ça. Et puis, quand tu le prends en compte, et ben voilà, tu laisses les enfants arriver tranquilles, tu leur laisses des temps calmes, tranquilles dans leur coin, tu n'exiges pas à ce qu'ils partagent leur jeu absolument. Enfin voilà, c'est tout un état d'esprit. Et ça, c'était ouais, exceptionnel, on a eu énormément de chance. Et après, on a déménagé et du coup, s'est posé la question du changement de crèche pour Mélina. Donc, on l'a changé de crèche et là, là ça n'a pas du tout été pareil. Alors que pourtant, sur le papier, c'était une crèche associative bilingue, Montessori, Faber et Malzisch.
Ah oui.
Alors, on peut difficilement faire mieux sur le papier. Et puis, en fait, je suis arrivée pour l'heure d'adaptation et il laissait pleurer les enfants, mais genre 30, 40 minutes, des bébés de 8 mois qui en venaient à vomir. Enfin, c'était horrible. Et du coup, je suis restée 50 minutes exactement. Je suis repartie avec Mélina sous le bras. On m'a dit demain. J'ai dit non, pas demain, non. Ça, c'est sûr que non. Et du coup, je suis partie. Je reprenais le boulot 2 jours après, mais tant pis. Je serais pas retournée au boulot s'il fallait. Je pense que faut être cohérent aussi avec sa façon de faire. Et puis, il se trouve que je pense que la vie est bien faite. C'est pas arrivé pour rien. Et en fait, le jour même, j'ai appelé des nounous et je suis tombée sur 2 nounous qui avaient l'air bien. On en a vu une le soir même. Et là, coup de foudre.
Ouais. Coup de cœur.
Ouais, coup de cœur, quoi. Et
t'as posé les bonnes questions, t'as osé vraiment.
Ah ouais, tout à fait. Ouais.
Il faut pour toi.
Je pense que c'est hyper important. J'ai tout de suite abordé tous les sujets, le fait de l'allaitement tout de suite. Donc, c'était quelqu'un qui avait allaité très longtemps ses 2 enfants. Donc, voilà. C'était quelqu'un qui était de culture maghrébine et j'ai toujours un bon a priori par rapport à ça parce que je sais que dans souvent les femmes de ces cultures-là, les enfants sont vraiment au centre et le côté enfant-roi n'est pas du tout un.
Péjoratif.
Ouais. C'est vraiment au sens noble du terme et voilà, et on est très tourné vers l'enfant et on le respecte, donc j'avais déjà un bon a priori et je l'ai senti d'une douceur terrible, c'est pas un bon mot, retrouve un mot plus positif, mais d'une douceur incroyable et Mélina a plongé dans ses bras au bout de 3 minutes et voilà, j'ai senti que ça allait être possible, donc on a parlé allaitement, on a parlé de la nourriture, on a parlé du sommeil. Voilà, et elle était très douce. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas toujours été asthmate. Ça faisait pas très longtemps qu'elle était asthmate. Et ça se sent aussi. Enfin, je trouve les gens qui ont vu aussi d'autres choses. Mmh. C'est souvent des gens qui sont un petit peu ouverts. Et puis écoute, les formations de la ville de Nantes, apparemment, pour les assistantes maternelles, moi, elles m'en parlent souvent. Elles me disent, non, nous, en formation, on nous a bien dit. Hein, on ne peut pas laisser pleurer un enfant. Ils ont un taux d'hormones de stress qui monte. Donc, je veux dire, c'est des choses...
Informées.
Voilà, elles sont informées. Et du coup, c'est d'autant plus lamentable pour la crèche, quand même, que c'est quand même la même ville qui donne les mêmes agréments. Alors, je ne sais pas, pour les asthmates, c'est le département. Alors, est-ce que ce n'est pas des formations départementales? Et du coup... Ouais. Peut-être qu'il y a peut-être deux réseaux par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Et on a eu beaucoup de chance, notamment par rapport au sommeil. Parce que Mélina, à la crèche, pour le coup, elle n'arrivait pas du tout à dormir. Elle dormait en poussette. Il la berçait en poussette. Elle dormait 2 fois 20 minutes et basta dans la journée. Elle n'a jamais dormi dans un lit. Elle avait un énorme reflux. Et sa nounou l'a accompagnée pendant 1 mois et demi avec elle, dans la chambre, dans le lit parapluie. Puis c'était trop dur. Elle la prenait sur elle, dans son lit à elle. Et elle réessayait le lit, elle l'accompagnait comme ça pendant 1 mois et demi sans jamais la laisser seule. Alors elle pleurait beaucoup, mais elle était avec elle, toujours à la rassurer en lui expliquant que ça allait aller, que c'était un changement d'habitude et tout ça. Et au bout d'un mois, elle m'a dit, je sais pas si ça va être possible, je sais pas, il faut qu'on prolonge la période d'essai d'un mois. Alors là, le stress. Parce qu'elle était tellement parfaite sur tout, je me dis, mon Dieu, le stress. Et puis en fait, ça a duré en quelques jours, elle m'a dit, ça y est, c'est bon. Ça y est, elle est rassurée, et ça y est, elle s'endort dans son lit. Et après, très vite, elle est elle-même montée. Elle montait elle-même, elle demandait elle-même le lit, même le matin, pour des siestes du matin. Et non, mais maintenant, elle dort 3 heures chez nous. Enfin, c'est incroyable.
Donc en fait, quand on fait confiance...
Mais quand on fait confiance, mais sans se voiler la face. Ce que j'ai vraiment apprécié chez cette nounou-là, et ce qui vraiment c'est qu'elle me disait, c'est dur pour elle. C'est vraiment dur, elle pleure beaucoup. Elle dit, en dehors de ça, elle est vraiment très bien. Mais là, elle pleure beaucoup, c'est difficile. Ouais. Donc je reste avec elle, je la relève, je la reprends, je reste, elle est dans mes bras. Ça tombait très bien que c'était pendant l'été et qu'elle avait qu'une autre enfant à garder qui était déjà grande, qui avait 2 ans et demi, donc elle a l'habitude, elle la couchait et elle s'endormait. Du coup, elle a pu prendre ce temps pour Mélina. Ça s'est vraiment très très bien goupillé en fait.
Ouais, donc c'est important de prendre ce temps et c'est précieux.
De prendre ce temps et puis voilà, d'avoir le. Mais si on l'avait pas trouvé, moi j'aurais pas repris, j'aurais arrêté, j'aurais pris un congé parental quoi. C'était absolument pas envisageable d'aller dans une crèche qui était violente comme ça, qui pratiquait les VO sans aucune pression, sans aucun problème.
Enfin, ouais,
c'était pas envisageable.
Et du coup, est-ce que votre entourage, il a été ouvert et compréhensif concernant les choix que vous avez faits pour vos filles? Parce que bon, tu me disais que tes parents étaient quand même assez, assez à contre-courant et justement qu'ils étaient un peu sensibilisés à tout ça, mais est-ce que du coup, ils n'ont pas été surpris?
Non, ils n'ont pas été surpris, ils ont été très soutenants et même, ils ont été assez fiers, je pense, parce qu'ils ont quand même senti qu'ils avaient un peu amorcé la chose. Et avec tout ce qui se passe maintenant, avec toutes les découvertes qu'on a fait, les neurosciences, etc., et le fait qu'on parle des VO, je pense qu'ils... Voilà, ils se sont dit, voilà, on était quand même... On était en avance, quoi. Et ils ont une fierté par rapport à ça. Et mon papa m'a dit, tu vois, j'ai entendu Catherine Guéguin sur France Inter un jour, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Du coup, il a lu son livre, etc. Et il me dit, tu vois, maintenant, l'intuition qu'on avait, c'est prouvé, quoi. Et ça, c'était beau quand il m'a dit ça. Je me dis, ouais, ça doit vachement les libérer parce que à l'époque, effectivement, c'était qu'une intuition. Et du coup, quand c'est qu'une intuition et que t'es à contre-courant, y a des fois où il chutait énormément et où il revenait complètement en arrière et nous, on comprenait pas. Donc, il y avait un petit problème de constance par rapport à ça. Mais ce qui s'explique aisément.
Mais oui,
voilà.
Quand on voit, nous, déjà avec tout ce qu'on sait,
c'est ça.
Toute l'information qui circule,
c'est ça.
À quel point on peut parfois être pointé du doigt, à quel point on peut se prendre, nous, beaucoup de violence, tu vois.
Mais eux, ça a été terrible. Enfin, ça a été, voilà. Et donc, du coup, parfois, il y avait des gros retours en arrière, forcément. Et donc, je pense que ça leur a fait vachement du bien, là, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, de nous voir comme ça, non, ils sont complètement. Voilà. Ils sont très fiers, je pense.
Et du coup, pour terminer, si tu devais donner un seul conseil à une future maman qui nous écoute, qu'est-ce que ce serait?
Alors franchement, ça serait de faire un travail sur soi avant d'avoir bébé. Ça peut être avec un psy ou pas, mais ouais. Je pense que le fait de poser les valises des autres avant, le fait de remettre les choses un peu à sa place, de se remettre au bon endroit, parce qu'on va changer de place à ce moment-là. Donc si déjà les places, elles sont un peu mixées dans la famille, dans les fratries, entre les parents, etc., c'est un peu compliqué. De poser ce qui n'est pas à soi, pour avoir juste ce qui est à soi et surtout la disponibilité pour construire sa famille à soi, se libérer de sa famille d'avant. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment changer beaucoup de choses.
C'est important.
Ouais, je pense.
Merci.
Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.